Sur une carte de géographie, on tire une ligne du nord du Japon au sud de l'Oregon. Eh bien là, vous aurez à peu près une idée, peut-être approximative, mais enfin une idée quand même de la limite de ce qui était connu du Pacifique au début du XVIIIe siècle. Alors les régions qui sont au nord de cette ligne, c'est vraiment les ténèbres. On ne connaît absolument rien. Bon, il y avait les Russes quand même, qui avaient quelques notions de ce qu'était le nord-est de l'Asie. Et leurs connaissances, elles étaient d'abord d'ordre pratique, bien sûr, mais elles étaient fournies surtout par, vous savez, les Cosaques, ces bandes de Cosaques qui avaient pénétré déjà à l'ouest, là, par la Sibérie. Alors, c'est à peu près en 1638 qu'ils vont arriver jusqu'à l'océan. Et en 1647-48, il y a un Cosaque qui est nommé Dejnev et qui va faire voile de l'embouchure du Kolmia jusqu'à Nadir. À Nadir, si vous voyez, eh bien c'est ainsi que le détroit de Bering a été passé bien avant l'expédition, justement, de Bering. Mais il faut tenir certainement pour vrai ce que dit Dejnev, parce que personne, en fait, n'a eu la moindre intuition de l'importance d'une telle entreprise, c'est-à-dire de passer de Kolyma jusqu'à Nadir. Alors, c'est Pierre le Grand. Vous imaginez la Russie de l'époque, vous imaginez ce qu'était Saint-Pétersbourg. Eh bien, on a retrouvé le texte, plutôt les instructions écrites de sa propre main, c'est ainsi que le voulait Pierre, avec un côté extrêmement laconique. Alors j'ai relevé parce qu'il disait « Construisez au Kamtchatka ou à n'importe quel autre endroit de cette région un ou deux navires, des navires pontés, hein. Attention, c'est très précis. Deuxièmement, vous allez longer avec ces navires toute la côte qui s'étend vers le nord et qui semble, bon, c'est des limites inconnues, qui semble appartenir à l'Amérique. Vous voyez qu'il est très précis, hein, il fait bien la différence entre l'Europe, il est européen, et l'Amérique. Et puis, en troisième position, il demande de déterminer où touche l'Amérique, c'est-à-dire aller vers une colonie qui serait soumise à la juridiction européenne. Et il veut surtout que si on rencontre des navires européens, si on arrive à créer une sorte de contact, eh bien, il faut s'informer du nom de la côte, il faut tout noter, il faut faire une escale pour obtenir des renseignements, il faut dresser une carte et ensuite revenir ici, à Saint-Pétersbourg. Alors ça, c'est vraiment l'autocrate parfait. Quand on imagine Pierre le Grand qui a réussi à faire construire une ville de pierre dans un marais, une ville complètement aberrante où chaque personne qui rentrait à Saint-Pétersbourg devait amener son caillou, ou plutôt sa véritable pierre de construction, eh bien là on comprend que simplement d'un trait de plume, de sa propre main, il avait décidé que quelqu'un devait accomplir cette tâche. Et c'est un Danois. C'est un Danois qui va être choisi, il est officier naval, il a été pendant de longues années au service de la Russie, c'est Vitus Johansen Bering. Alors lui, il est né dans une petite ville, il est né à Horsens en 1681, et il va visiter les Indes pendant sa jeunesse, puis ensuite il va rentrer au service impérial russe. Et alors là, il a combattu, enfin bon, ce qui est intéressant, c'est qu'en 1724, il est soudain promu, c'est une promotion incroyable, on lui donne le grade de premier capitaine, et on le charge de l'expédition qui est appelée « Première expédition Kamtchadal ». Et oui, c'est comme ça qu'on part. Et c'est dans la seconde moitié du mois de janvier, au début de février, peut-être 1725, à l'époque même où le tsar va mourir, que Bering va convoquer son personnel. Il va en somme prendre, je crois, 33 ou 34 hommes. Et il va en fait chercher un commandant en second, ce sera d'ailleurs un Danois. Il va choisir Spangsberg, je crois qu'il s'appelait Morten Spangsberg. Et là, il va d'abord imaginer ce que sont les immenses espaces de Russie, ensuite de Sibérie. Ils vont devoir traverser avant que l'expédition elle-même puisse proprement commencer. Alors, on pourrait écrire un livre entier, on pourrait imaginer une histoire uniquement avec les difficultés qu'ils ont eues à surmonter, les souffrances absolument incroyables qu'ils vont endurer, je dirais les déboires aussi au cours de ce voyage. Il suffit de dire que ce n'est que 3 ans plus tard que à 7200 km à vol d'oiseau, hein, attention, de leur point de départ, ils arrivent à Kamtchatka. Quand on ouvre la carte et qu'on regarde l'importance de ce continent, de ce sous-continent qui est la Russie et la Sibérie, là on est vraiment au seuil de l'inconnu. On a l'impression qu'on est vraiment au bout du monde. Alors ils vont devoir, après avoir fait ces 7200 km à vol d'oiseau, ils vont devoir construire un navire. Et enfin, c'est à peu près à la mi-juillet donc, qu'ils vont lever l'ancre à bord du Saint-Gabriel. Alors ils vont longer les côtes en direction du nord, ils vont découvrir, oh, je crois que c'est à peu près un mois plus tard, une grande île, ils vont l'appeler Saint-Laurent. Ensuite, bon, il y a le mauvais temps, il y a un côté très brumeux, il y a des nuages. Vous savez, souvent on a un temps de cochon, je ne sais pas si vous avez déjà traversé le détroit de Bering, mais en l'occurrence, ils n'ont absolument rien vu de la côte américaine. Et là, carrément à la mi-août, alors que le navire avait pénétré très en avant dans la mer polaire, c'est-à-dire carrément tout au nord, Bering se décide à rentrer. La côte ne semblait pas se continuer vers le nord, alors il considère que sa tâche est accomplie. Alors Bering va maintenant pouvoir démontrer que l'Asie n'est pas reliée à l'Amérique. Mais qu'au contraire de tout ce qu'on croyait, enfin de l'opinion commune, même celle de, vous rappelez, de celui qui est mort maintenant, du grand Pierre le Grand, eh bien, il était très satisfait et finalement, son bon sens, il est là. Il refuse toutes les idées absurdes qui couraient sur l'existence de terres vastes, cette idée féerique comme ça, d'avoir un nord absolument incroyable du côté du. Là, tout à fait en dessus du Pacifique. Alors, il va être extrêmement mal accueilli. Et 2 mois après son retour à Saint-Pétersbourg, là on est en 1730, il propose de refaire une nouvelle expédition. Alors ça c'est incroyable, parce que entre-temps, on a découvert les côtes de l'Alaska, et en effet c'est les Cosaques qui avaient appris que les Tchouchis, un nom un peu bizarre, qui vivaient au nord-est de l'Asie, qui était en face de leur territoire, au-delà de la mer, eh bien ils savaient qu'il existait là une Bolshaya Zemblia, vous savez, ça veut dire une grande terre. Et en 1732, un certain Gvozdev était parti du Kamchatka, bien sûr, pour essayer d'explorer cette région inconnue. Il est arrivé en vue de la terre. Bon, il y avait eu des vents contraires, une fois de plus, le manque de fond, il ne va pas pouvoir accoster, il renonce donc de débarquer, il rentre, et personne ne s'intéresse à la découverte de Gvozdev, et sa visite de la côte d'Alaska n'a pas eu plus d'importance que le voyage de Dejnev, vous vous rappelez, environ un siècle auparavant, les Cosaques, enfin bon. En l'occurrence, les préparatifs de la grande expédition du Nord touchent à leur terme. Alors, elle a débuté non pas par une seule et unique expédition, c'était l'idée, c'était qu'on a voulu faire une sorte de série d'expéditions indépendantes les unes des autres. Alors, je ne veux pas toutes les vous raconter, mais en fait, on a eu la découverte des îles Kurilin, ou Kurili, si vous préférez, il y a eu le nord du Japon, il y a eu un autre Danois qui est parti, on est allé jusqu'à l'embouchure de la Léna, et il a fallu 7 ans entre le départ de Bering de Saint-Pétersbourg et son arrivée à Kamtchatka. Alors, il va fonder une ville qu'il va appeler Petropavlovsk. Et là, il a quand même 60 ans. Hein. Il est déjà un peu fatigué. Il a eu beaucoup de privations. Il y a les souffrances du voyage que j'évoquais tout à l'heure. C'est pas facile de faire ces 7000 kilomètres. Et puis, il y a vraiment de l'hostilité. Les autorités sibériennes ne font absolument rien pour l'aider. Et je ne vais pas anticiper sur l'expédition elle-même, mais sachez que Bering va découvrir une terre nouvelle, une contrée sauvage, une contrée montagneuse avec des sommets couverts de neige. Là, c'est quand il est parti avec son bateau, bien sûr. Et il voit tout cela s'élever en dessus des flots. Et il pense que c'est une des régions les plus élevées de l'Amérique du Nord. Il a raison, parce que vous êtes aux alentours du mont Saint-Élie et c'est vraiment une montagne extrêmement élevée. Et quelques jours plus tard, il jette l'ancre au large d'une petite île. C'est un joli nom. Je l'aime bien, l'île Kayak. L'île Kayak était à l'est du détroit de, vous savez, le prince William qui a laissé son nom dans cette région. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Une exploration n'était pas très fructueuse, le temps disponible était trop court, le second et puis surtout les hommes d'équipage. Il y avait un naturaliste à bord, qui était un Allemand qui s'appelait Steller. C'est l'unique qui a vraiment décrit comme ça, qui a parlé de ce voyage. Et ils ont été rapidement à terre pour faire une reconnaissance. Et en même temps, l'équipage serait approvisionné parce qu'on cherchait toujours de l'eau douce. Et après quoi, Bering va donner l'ordre du départ. Alors, on imagine Steller, il est furieux. Il se demande vraiment si le but complet de l'expédition, c'était uniquement d'aller chercher de l'eau en Amérique et de revenir en Asie. Enfin, ça paraissait complètement ridicule. C'était beaucoup trop court. Mais les préparatifs, ne l'oublions pas, avaient coûté à peu près 10 ans de travaux. avant de faire cette courte expédition. Et on avait voué, en fait, qu'est-ce que je pourrais dire, 10 heures peut-être à la tâche principale, c'est-à-dire la découverte véritable de l'Alaska. Bon, Steller est un peu injuste parce que Bering avait d'excellentes raisons de vouloir rentrer, puisque je parlais des problèmes d'approvisionnement, ça c'était très sérieux, mais il y avait surtout le fait qu'on était autorisé à repartir au cours de l'été suivant. Donc attention, quand je parle de l'hiver, c'est quelque chose, hein. Il ne fallait pas prendre de risques trop sérieux. Il y avait le scorbut de nouveau, ça c'est vraiment l'ennemi de tous les anciens marins. Et bon, il avait fait son apparition, la santé même de Bering était totalement ébranlée. Et puis il n'arrivait même plus à se lever de sa couchette. La maladie se propageait, et puis il y a eu les premiers décès. Un premier décès aux îles Shumagin. Nous sommes à bord du Saint-Pierre, du Saint-Peter. Vous vous rappelez, le dernier bateau que nous avions pris, c'était le Saint-Gabriel. Eh bien, pendant 2 mois, on va suivre la chaîne des îles Aléoutiennes dans des conditions de plus en plus terribles. Je vous ai dit, il y a déjà eu des morts à cause du scorbut, il y a eu des tempêtes, il y a eu... Bon, les voiles vont être à demi pourries, les réserves d'eau sont complètement amoindries, enfin... Ça s'amenuise petit à petit. Et la moitié de l'équipage était déjà malade. L'autre souffrait de ces privations que j'évoque maintenant. Et là, au mois de novembre, début novembre, attention, novembre, quand vous êtes du côté de la Sibérie et de l'Alaska, on découvre une côte et on pense qu'on va toucher le Kamtchatka. Et ben, on s'est aperçu finalement que c'est encore une île inconnue, une île inhabitée. On va la nommer Bering. Et Et maintenant, on se rend compte qu'on n'aura pas de difficulté à rentrer, peut-être, mais il ne faudrait surtout pas qu'il y ait une tempête et on décide en fait d'abandonner tout comme cela. C'est qu'il faut être prudent, hein. Un hivernage, c'est important. Alors, on s'arrête sur cette île et le séjour va être interrompu par ces souffrances, c'est-à-dire qu'on va ensuite devoir s'accommoder. On va construire des huttes, des sortes de huttes primitives qui sont creusées dans le sable, on va les couvrir de débris de bois, on va se protéger comme on peut. Il y a les tempêtes de neige, il y a le froid qui est absolument terrible, et puis ce scorbut, ce sacré scorbut qui continue à faire des ravages. Alors là c'est curieux, on parle pour la première fois de la faune, une faune extrêmement abondante, et Stellaire, il va voir pour la première fois ce fameux Rhytina. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un Rhytina, c'est un mammifère aquatique qui est herbivore d'ailleurs, et qui. À quoi ça peut ressembler en fait? À un veau marin? Oui, c'est ça. Et on va exterminer ces animaux seulement, je crois, 20 ou 30 ans après leur découverte, et ils vont disparaître de la planète. Mais je dirais que ce qu'ils ont remarqué aussi, c'est les renards. C'est les renards polaires qui étaient tellement nombreux. Et puis il y a un côté très audacieux chez ces animaux, puisqu'ils les considèrent comme une véritable plaie. Non seulement ils volaient tout ce qui était à leur portée, mais ils attaquaient même les hommes sans défense. Alors c'est quand même impressionnant de penser qu'on peut être mangé par un simple renard. Mais il y a eu un hasard tout à fait heureux. Le navire va être finalement. Comment est-ce qu'il faut dire ça? Il va être jeté carrément sur la plage au cours d'une tempête effroyable. Alors, ça a permis à l'équipage de mettre en sécurité, en sûreté, les provisions, toutes les provisions, le matériel aussi. Mais la situation va empirer de jour en jour et l'un après l'autre, les malades vont succomber au scorbut et le 8 décembre, Bering lui-même va mourir. Et oui, même après sa mort, son sort n'a pas été moins tragique. Je vais vous raconter un peu les rapports qui ont eu lieu sur cette grande expédition qui sont restés longtemps dans la poussière des archives, ces archives russes. C'est quand même injuste, oui, parce que quand on sait que c'est à juste titre que les eaux septentrionales entre l'Asie et l'Amérique, après tout, vous savez aujourd'hui que quand on parle de ces eaux-là, elles ont été baptisées de son nom. J'estime que c'est quand même assez justifié parce que celui qui l'a le plus admiré, les Russes l'ont détesté, c'est James Cook. On en parlera tout à l'heure. Voilà quelqu'un qui sait naviguer. On meurt comme Bering, on peut naître comme Wallis en 1728. Lui, il va vivre jusqu'en 1795. Il s'appelait Samuel. Samuel Wallis, c'est un capitaine de la flotte, la grande flotte britannique. On va changer de nationalité. Et essayez de penser à ses compatriotes, ces aventuriers incroyables, ces Anglais. Ils sont bien connus. Il y a Raleigh, qui découvre quelque chose qui ressemble au tabac, en tout cas qui. Oui, on remarque son nom souvent sur des marques de tabac. Et puis il y a Drake, alors qui est beaucoup plus impressionnant parce que c'est vraiment le pirate. Eh bien, revenons peut-être à Wallis. Il a été désigné en 1766 pour explorer l'océan Pacifique. Mais attention, le sud. On va changer un peu de climat là, en tout cas pour quelques instants. Encore que lorsqu'on descend très au sud, vous allez voir, ce n'est pas forcément très drôle. Alors, c'est découvrir cet immense continent méridional, parce qu'on y croit toujours, les savants y croient toujours. Il a 38 ans. Il a été très actif dans la marine royale, il a servi. Il y a un amiral qui est assez connu, qui s'appelle Boscawen. Il a commandé vous savez, le prince d'Orange. C'est quand même un beau navire, hein, 60 canons. Il y a eu les guerres françaises, c'est pour ça que je parle de cela. Et ça s'est terminé par, vous le savez peut-être aussi, la cession du Canada à l'Angleterre. Ça n'est pas peu de choses. Alors, si on parle de sa carrière d'explorateur, je dirais qu'il est d'abord un commandant, c'est un officier de marine. marine compétent. Il a été l'ami de cet amiral, Boscawen. Attention, il était alors à l'amirauté à Londres. Et ces bateaux, bien, c'était le Dauphin qui venait de rentrer de la circumnavigation. Alors, on fait le tour complet de la planète avec le Commodore Byron. Et puis il y avait l'Hirondelle qui était commandée par le capitaine Carteret et qui avait été aussi avec, justement, il accompagnait Byron, le fameux Byron. Et dans le plus grand secret, afin d'empêcher, vous le devinez là, c'est toujours les Espagnols qui nous chatouillent, on ne voulait pas qu'ils connaissent la destination, eh bien, les bateaux vont partir de Plymouth. Là, vous êtes, c'est le 22 août 1766, c'est la date de départ, avec l'ordre officiel de passer par les Indes occidentales, vous me suivez, c'est-à-dire par l'Amérique, attention, les Espagnols sont partout. Et finalement, vous avez l'ordre secret de franchir le détroit de Magellan et de traverser l'océan Pacifique en suivant le même degré de latitude jusqu'à la côte de la Nouvelle-Zélande. Et vous savez qu'elle a été découverte par Tasman en 1642. Et pour un voilier, tel voyage, c'est carrément... Comment est-ce qu'il faut dire ça pour l'époque? C'est une impossibilité matérielle, tout simplement. Et finalement... à cause de la violence des vents de l'ouest, à travers, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a, 3000 lieues d'océan à peu près. C'est incroyable. Mais au temps de Wallis, cette expérience était naturellement totalement inconnue. Et on allait voir. Eh bien, près du détroit de Magellan, Wallis va jeter l'ancre pour regarnir ses magasins. C'est con. On cherchait toujours des vivres, il fallait remplir les barils d'eau. Et grâce à un bateau de ravitaillement qui avait été envoyé à sa rencontre, tout cela est possible. Il saisit d'ailleurs l'occasion pour mesurer avec exactitude. Ça, c'est très drôle. On parlait des géants de Patagonie. Vous vous rappelez du mot Patagon, ceux qui ont des grands pieds, ces indigènes du coin. Et bon, il y avait eu des bruits étranges, très exagérés, qui couraient en Europe sur ces habitants de Patagonie. Et Wallis va trouver que leur hauteur moyenne était d'un peu plus de 6 pieds et que très peu d'entre eux atteignaient 7 pieds. Alors vous multipliez un pied par 7 et vous verrez qu'ils sont à peine plus grands que les autochtones du reste de l'Argentine. Enfin, c'était les Patagons. Et ils avaient fait rêver tout le monde depuis le voyage de Magellan. D'ailleurs, c'est lui qui avait permis qu'il porte ce nom. Et bon, là maintenant, vous avez vos réserves, vos bateaux commencent à passer le détroit. Là, vous êtes en janvier 1767. Alors, il y a cette étroite, c'est une langue de mer, en fait, entre la côte méridionale du continent américain et puis ces îles. Et bon, il y a d'énormes montagnes. Alors moi, ce que je me rappelle, c'est surtout ces rochers noirs, ce côté très sévère. Il y a toujours cette neige, il y a toujours de la glace dans cet endroit, et ça a quelque chose de repoussant. Même si on imagine quelque chose de négatif en géographie, je crois que rien qu'à regarder cet endroit, moi j'ai froid dans le dos. Et en l'occurrence, le ciel est gris, vous avez une température extrêmement rude, vous êtes au mois de janvier, et pourtant c'est déjà le début de la mauvaise saison, bien sûr, et les vents sont continuellement contraires, il faut s'arrêter, faire attention aux récifs, et pour arriver de l'océan Atlantique au Pacifique, c'est vraiment quelque chose, ça c'est une expérience qui est à la fois terrible, qui a toujours été terrible, et n'importe quel marin vous dira que c'est quelque chose d'épuisant. Et il a fallu 4 mois, on croit rêver, hein, à Wallis et à tous ses matelots, pour essayer de lutter. Enfin, il le dit dans ses écrits, chaque yard, hein, chaque mètre dans la direction de l'ouest, c'est vraiment un effort. Il y a les vents, il y a la mer, il y a la terre, tout est glacé, tout est mouillé, vous avez la fatigue, il y a un travail énorme, on est démoralisé par le temps, il y a ce décor, je vous dis, c'est vraiment hideux, c'est laid comme tout. Et puis il y a cette angoisse qui est causée par le danger de la navigation, par ces arrêts qui sont véritablement périlleux. Et lorsque vous arrivez dans l'océan Pacifique, eh bien, vous êtes tout seul. Bah oui, vous êtes forcé à la sortie du détroit d'abandonner votre compagnon en présence de ces difficultés que j'évoquais, de la navigation. On ne peut pas poursuivre et pour le moment, eh bien, ni le dauphin ni son équipage n'ont été capables de mener à bien la tâche qui leur était assignée. Et c'est ainsi que Wallis tente en vain pendant quelques jours de se diriger vers l'ouest conformément aux ordres qui sont reçus. Il trouve la mission totalement impossible et son bateau délabré, il prend l'eau, son équipage est affaibli. N'en rajoute pas, hein, je vous assure, eh bien, si bien qu'on tourne plus au nord à la recherche de températures plus chaudes. Hein, je vous assure que même moi, je commence à avoir des frissons. L'eau est plus calme là-haut et on cherche une île, on cherche à se reposer, on est fatigué, on cherche de la nourriture. Et quoique le temps, effectivement, se réchauffe, ça devient même agréable, il y a ce développement du scorbut, une fois de plus. C'est vraiment l'obsession. Et presque tous les hommes vont tomber malades, Wallis aussi. Et à ce moment, la conduite du bateau, la responsabilité même du navire, ça n'est plus vraiment Wallis. C'est Tobias Furneaux qui s'en occupe. Et il va d'ailleurs plus tard accompagner ce fameux capitaine Cook qui nous attend dans un instant après l'apparition de... Il y a des petits atolls comme ça sur lesquels on fait des débarquements pour tenter effectivement de trouver à la fois parmi ces collines boisées, parmi ces sommets. Le lendemain, le 18 juin 1767, on arrive devant quelque chose de splendide, une sorte de fertilité incroyable. On voit des sommets qui sont beaucoup plus aigus. C'est Tahiti. Tahiti qu'on aperçoit pour la première fois. Un œil européen vient de voir cette île incroyable. Alors, là, je change d'ambiance. Le matin, vous avez des centaines de canots qui sont pleins d'hommes et de femmes. Ils sont beaux, ils sont magnifiques. Et ils environnent le navire. Vous les voyez par centaines. Et il y en a qui apportent des fruits. Ils viennent échanger des bagatelles. Et puis, il y en a beaucoup d'autres qui... Ah, attention, là, ceux-là vont se préparer à lancer des pierres rondes. C'est vrai qu'ils savent attaquer aussi. Et on cherche à jeter l'ancre, mais on est immédiatement attaqué. Et il faut répondre. Malheureusement, c'est les mousquets. Les mousquets qui vont tuer le premier Tahitien. Et à la fin, le dauphin fait finalement ancrer ces marins-là juste près d'un réservoir d'eau. Il faut couvrir avec des armes ceux qui travaillent. Et il faudra attendre le lendemain pour finalement réussir à aborder. Et les Tahitiens, eh bien, ils n'ont pas voulu se lier d'amitié sans cette épreuve de force. C'est comme un côté un peu préalable, c'est assez curieux. On a l'impression que chez eux, c'est la façon de vous accueillir. Sachez lutter, on vous acceptera. Samuel Wallis s'est vite rendu compte que les Tahitiens ne voulez pas se lier d'amitié sans une épreuve de force. Et pendant que d'un côté, imaginez, d'un côté du bateau, vous avez des canots qui sont chargés de ravissantes jeunes filles qui sont nues, avec des attitudes un peu provocantes. Elles cherchent à attirer, bien sûr, l'attention des marins. Et puis de l'autre côté, vous avez petit à petit une sorte d'infiltration avec des canots bourrés de guerriers. Mais attention, Wallis, il ne va pas se laisser prendre à un tel piège. Alors, à la première volée de pierre qui est lancée des canaux les plus rapprochés, eh bien, il répond par des mousquets. Et ensuite, il va même faire tonner ses canons, tandis que la plupart des pierres atteignent les panneaux qui sont construits pour protéger le pont. Vous savez que le pont est protégé à cause du soleil, bien sûr. Alors, il y a un boulet de canon qui est tiré et qui va couper par le milieu. On imagine la scène, hein, le canot du chef de l'attaque est carrément brisé en deux. Et les autres atteignent le rivage. Il y a des milliers de spectateurs qui sont là. Il y a surtout la qualité des armes européennes qui commence à... ça fait de l'effet et la paix va être conclue. Ben oui, c'est comme ça. Tous les sentiments qui au départ paraissent très belliqueux vont être oubliés et on pardonne des deux côtés. Alors, immédiatement, vous êtes à Tahiti. Des fruits frais, des victuailles abondantes, de l'eau, on oublie le scorbut. Et puis, attention, la compagnie tout à fait exquise de ces femmes superbes. Et elles sont libres comme jamais un Européen n'avait cru qu'une femme pouvait être libre. Et sur terre ferme, elles sont aussi attrayantes d'ailleurs que dans leur canot de tout à l'heure. Et finalement, on trouve le temps trop court, on ne reste qu'un mois. Vous savez, comme vous prenez 15 jours ou 3 semaines de vacances, eh bien ces marins n'auront qu'un mois sur place. Et enfin, le dauphin doit partir. Alors là, je crois que pour la première fois, les marins, rappelez-vous, nous étions dans des terres moins hospitalières tout à l'heure, dans le détroit de Magellan. Ben là, ils regrettent un peu. Il y a quelque chose d'assez sincère, de part et d'autre d'ailleurs. Je pense que les Tahitiens, les Tahitiennes, ont regretté aussi ce départ du dauphin. Il n'y a pas grand-chose à dire sur le reste du voyage. Il y a un peu de nostalgie, bien sûr. Il y a encore quelques petites îles qui seront là avant d'arriver à Batavia. Et Wallis a fait la plus rapide circumnavigation de l'époque. C'était une rapidité époustouflante. Et sa découverte de Tahiti, elle est importante car, après tout, là, vous êtes au cœur du Pacifique. C'est là que les navigateurs vont pouvoir trouver ce refuge, cette sécurité qu'on a ressentie en un mois. Et c'est ainsi qu'il y aura de la nourriture abondante. C'est ainsi aussi que... Bon, malheureusement, Wallis est gravement atteint. Sa santé est un peu difficile. Il va s'octroyer encore 2 ans de congé. Il aura même une gratification de quelque chose comme 500 livres. Et plus tard, il sera employé à l'amirauté. Je vous ai dit, il est mort en 1795. Nous étions en 1795 et un homme est mort déjà quelques années auparavant, en 1779. Il était né en 1728, c'est James Cook. James Cook, c'est un morceau d'histoire extraordinaire parce que lorsque vous êtes né comme ça un 27 octobre à Marton, dans le Yorkshire, lorsque vous avez été placé comme apprenti chez un épicier près de Whisby, et vous avez travaillé pendant une année et demie parce que vous étiez là chez un patron qui finalement va rapidement vous présenter à un armateur de l'endroit. Là, je pense à John Walker. Vous êtes en 1745-46 Et c'est ainsi que vous allez monter sur un navire charbonnier. C'est là que vous allez commencer votre carrière quand vous êtes cook. Vous me direz charbon, cook, c'est un mauvais jeu de mots. Mais enfin, en 1755, il va s'engager dans la marine royale. Et 2 ans plus tard, il va être nommé maître chargé. C'est le titre. Il va même partir faire la guerre, cette guerre de 7 ans contre la France. Et 2 ans plus tard, il va être nommé, je vous l'ai dit. Et après cela, il y aura la chute du Québec. Il va rester dans les eaux de l'Amérique du Nord. Il va être chargé de surveiller le Saint-Laurent et plusieurs des ports qui se trouvent là. Et en octobre 1762, il rentre en Angleterre. Il va trouver une épouse, Elizabeth Barr. Et juste après, quelques années, c'était l'année d'après, Cook va être envoyé aux îles Saint-Pierre et Miquelon pour s'y livrer à des observations. Après une brève visite en Angleterre, il repart pour Terre-Neuve avec mission d'y poursuivre des recherches très approfondies. Et finalement, chaque hiver, il rentre ainsi en Angleterre et c'est à la fin de 1766 qu'il rapporte des résultats. C'est assez curieux, là on entre dans la science. Hein. C'est une observation d'une éclipse de soleil qui s'est produite le 5 août de cette année. Et il en a tiré des calculs absolument incroyables sur la longitude. Il va même faire publier cela plus tard à la Société Royale, à la Royal Society. Et l'attention de cette Royal Society s'est portée sur le passage, non pas de l'éclipse, non, mais de la planète Vénus, qui, d'après les pronostics de Halley, ça vous rappelle quelque chose, hein, on pense bien sûr à cette fameuse comète, eh bien, ce passage était prévu en 1761 ou éventuellement en 1769, là il y avait des recherches assez curieuses, mais en tout cas on était sûr qu'elle ne pourrait pas se reproduire avant 1874. Alors les observations qui avaient été tentées là justement au début de ces années 60 n'avaient pas été véritablement concluantes, et entre-temps il y a un astronome royal bien sûr qui est là et qui va calculer l'endroit où ce phénomène pourrait être observé dans les meilleures conditions, et lui a déclaré que c'était dans le Pacifique, au centre même de cette région. Vous rappelez, Wallis avait découvert l'île de Tahiti. Et à ce problème d'astronomie, il y en avait un autre qui était un problème géographique. C'était toujours, toujours celui de ce grand continent austral, de l'exploration de ce continent. L'existence semblait toujours prouvée. Il y avait toujours des témoignages. Et on avait ainsi recommandé à la fois à cette Royal Society, c'est un Anglais qui avait dit que un certain Alexandre Dalrymple, et il y a un Français aussi, Charles de Brosse, qui avait parlé toujours de ce continent, et finalement l'amirauté britannique se refuse à confier le commandement de cette expédition à une personnalité qui n'aurait pas d'attache véritable avec la marine royale, et la candidature de Dalrymple va être rejetée, et heureusement c'est Cook qui maintenant est capable de, je dirais, de satisfaire à toutes les exigences qui sont formulées de part et d'autre. Et bon, il a reçu de l'amirauté le commandement de l'expédition. Et puis la Royal Society choisit notre Cook. Et finalement, il va être accompagné par Charles Green. C'est l'assistant en fait de l'astronome royal pour observer ce passage de la planète Vénus. Alors, Green avait étudié de près la méthode de Maskelyne. C'était un calcul qui c'était un peu compliqué. Il y avait les longitudes au moyen de distances lunaires, et Cook devait contrôler sa longitude à un degré près, avec une précision qui n'était pas encore possible d'atteindre. Attention, le chronomètre qui a été conçu par James Harrison, dont j'ai parlé la dernière fois en 1768, il n'était pas encore tout à fait au point, donc c'était pratiquement impossible. Et la Société Royale avait joint à l'expédition un naturaliste, c'est Joseph Banks. Il y a un botaniste suédois qui était là aussi, Solander, et puis un autre naturaliste qui s'appelait Sporing. Vous voyez que ça devient très très important. On a l'impression vraiment, un peu comme on va le faire ensuite au XXe siècle, qu'on prépare une expédition de façon absolument rigoureuse. Alors les travaux de Banks et de ses collaborateurs, eh bien, ça va enrichir véritablement tous les résultats de ce voyage. Alors Cook a son vaisseau, et il va choisir un charbonnier. Ben oui, il avait l'habitude de ce genre de navire, et il va porter le nom officiel d'Endeavour Barks. C'est un bateau qui est petit, qui est lent, mais qui navigue extrêmement bien, et il part en fait le 25 août 1768. Alors l'objectif principal, c'était d'observer, je vous le rappelle, le passage de cette planète Vénus. Alors, il va accomplir sa mission, ensuite il va mettre cap vers le sud, à la découverte du continent austral, et là on sait que si par hasard il ne réussit pas, eh bien il doit continuer à l'ouest, jusque vers la Nouvelle-Zélande, et qu'il va devoir explorer, si c'est possible, avec des instructions complémentaires, et qui lui demandent de prendre possession, attention, au nom de l'Empire britannique, de toutes les terres qu'il va découvrir. Alors, il va traverser l'Atlantique, il va doubler le cap Horn par les voies qui sont connues, puis, en tournant plus à l'ouest, il va prendre la direction qui n'avait jamais encore été prise par aucun navire. Et il va ensuite se rendre compte qu'il n'existait pas de continent à proximité de la côte ouest de l'Amérique du Sud. Ça, c'est la première grande découverte par rapport à ce continent qu'on cherche depuis si longtemps. Depuis si longtemps qu'on se demande même si un jour on saura qu'il n'y a que cette glace et cette banquise. Comme nous l'avons fait tout à l'heure, eh bien, on remonte vers la chaleur. Le 13 avril 1769, oui, il y avait les préliminaires, les ordres étaient reçus. Il aborde finalement Tahiti. Et là, il fait construire un fortin, il s'installe. Oh, il installe aussi ses instruments et il se consacre avec Banks à observer. Bon, tous ses loisirs sont là pour étudier la vie des indigènes. Et on attend le mois de juin, et c'est le 3 juin. Un succès complet parce que Cook et Green observent la conjonction de Vénus et du Soleil, cette fameuse éclipse particulière. Et l'Endeavour quitte Tahiti le 13 juillet. On passe un mois à explorer les îles qui sont à l'ouest du groupe. Cook va les nommer les îles de la Société. Et ensuite, il se dirige, là nous avançons, nous sommes en début août, vers le sud. Il recherche maintenant ce continent austral. Et il a reçu des instructions, bien sûr, et l'expédition devait avancer jusqu'au 40e degré sud. Il dépasse une fois un tout petit peu cette latitude, mais il ne trouve aucune terre et il se voit malheureusement contraint. Là, il y a le mauvais temps, il est obligé de remonter vers le nord. Et à mi-chemin, environ entre... à mi-chemin de la Nouvelle-Zélande, et il se dirige à nouveau vers le sud jusqu'au 39e degré, puis il continue, il incline vers l'ouest, et le 7 octobre, il aperçoit une terre. c'est la côte orientale de l'île nord de la Nouvelle-Zélande. Et là, il découvre cette côte ouest. Vous savez que Tasman l'avait déjà remarqué en 1642. Et Cook va faire le périple des deux îles. Et il prouve ainsi qu'elles n'ont aucun rapport avec le continent, ce continent austral. Et en 6 mois environ, il fait une carte si exact que on y retrouve toute la ligne des côtes on dresse là de façon tout à fait précise. Et Cook, il aurait peut-être préféré revenir carrément par le Cap Horn pour achever ses recherches sur ce continent austral, mais regardez le navire. Il est dans un tel état que c'est pratiquement impossible de continuer et d'imaginer revenir vers le Cap Horn. Alors il prend la route des Indes orientales. Il espère découvrir la côte est de la Nouvelle-Hollande, ce qu'on appelle bien sûr aujourd'hui l'Australie. Et c'est le 1er avril 1770 qu'il quitte la Nouvelle-Zélande. Le 20 avril, il est à peu près, environ 38 degrés de latitude sud. Et il arrive devant une terre qu'il va baptiser Point Hicks. C'est le nom du premier lieutenant qu'il avait aperçu. Et le voyage se poursuit le long de la côte orientale. Le 11 juin, il échappe au naufrage. On fait des réparations. Ça vous retient à peu près un mois. Et on met à profit tout cela. Ce sont les naturalistes qui vont essayer de travailler sur place. Et là, au début août, on repart et on atteint enfin le détroit de Torres, qui a été découvert déjà en 1606, mais qui était resté totalement inconnu jusqu'à cette date, jusqu'en 1762 à peu près, date de la prise de Manille par l'Espagne. Alors Cook prend possession de ce nouveau pays, il passe par le détroit, il arrive à Batavia le 11 octobre, et dans son rapport à l'amirauté, il relève le fait qu'au cours de ce voyage, aucun homme n'est mort de maladie. C'est vraiment la première fois qu'on peut annoncer cela. Et c'est une indication qui tente à prouver que les moyens qui avaient été employés par Cook contre le scorbut étaient très efficaces. Personne avant lui n'avait attaqué ce fléau de manière systématique comme il l'avait fait. Après son voyage, ce sont ces méthodes qui vont généralement être adoptées par tous les marins. Et il est arrivé à Batavia pour y faire réparer le navire. Et une fois que ce travail sera terminé, ce sont les ouvriers hollandais qui s'en occupent. Et n'oublions pas qu'on est parti d'Angleterre, bien sûr. L'équipage est désœuvré. Mais il y a un phénomène assez curieux, une sorte de dysenterie qui commence à sévir. Et tous sont malades. Il y a 30 hommes qui vont succomber en quelques jours avant que le navire ait pu atteindre l'Atlantique. Et parmi les victimes, il y a l'astronome Green, qui était si important dans l'observation de cette étrange éclipse entre Vénus et le Soleil. Et en outre, il y a de nombreux malades qui vont être débarqués carrément à Cape Town, là tout au sud de l'Afrique. Et c'est au mois de juillet 1771, le 12 juillet, que Cook rentre en Angleterre. Il n'a pas pu démentir complètement l'existence de cette terre australe, mais les résultats de son expédition étaient tellement positifs, l'importance de son voyage était tellement extraordinaire qu'il a été mis d'un seul coup au premier rang, et presque aussitôt après, il doit même appareiller pour un second voyage qui est destiné cette fois à lever tous les doutes possibles sur cette terre australe. Le plan général, ça consiste à naviguer autour du monde à une latitude sud extrêmement élevée, et de commencer par la recherche du cap circumcision, comme on l'appelait, qu'on suppose avoir été découvert par Bouvet au cours de son voyage, là, je crois en 1739-1740, au sud de l'Afrique, et de continuer ensuite vers l'est, et en poussant au besoin vers le nord, et on équipe deux navires, il y a le Resolution, et puis l'Adventure, et là, on lui confère le grade de capitaine. Il y a un certain Forster qui est à bord, c'est un naturaliste allemand qui va se joindre à l'expédition et qui dispose pour la première fois de 4 chronomètres, et l'un d'eux a été justement conçu par James Harrison, et Cook va dire que c'est vraiment un guide qui ne leur a jamais fait défaut. On n'a aucune idée de l'importance que représente un chronomètre lorsqu'on est en mer, mais au mois de juillet 1772, il part maintenant de Plymouth et il apprend en touchant le cap qu'une expédition française commandée par Kerguelen Tremarec avait découvert des terres au point 50 degrés sud, 90 degrés est, et qu'une autre expédition, sous Marion et Crozet, avait aperçu quelques îles près du cap, mais à la même latitude environ. Alors Cook ne trouve pas de terre où Bouvet l'avait déclaré, et comme il navigue à 300 milles au sud, eh bien il en conclut qu'elle ne peut pas faire partie du continent austral. Il continue vers l'est, il met le cap au sud et il retourne au nord à un point à mi-chemin environ entre les terres découvertes par le Français et Marion et Croiset. Et là, il ne voit absolument aucune terre et il est convaincu à nouveau que s'il existait dans cette partie de l'océan quelque chose qui ressemble à un continent, eh bien, il l'aurait trouvé. Et c'est une recherche ultérieure du côté de la Nouvelle-Zélande qui va lui permettre de dire qu'il n'y a aucun continent. Et Cook apparaît alors au nord vers son ancienne base. Il retourne vers Tahiti. Et après quelques découvertes dans le Pacifique, eh bien, il va repartir vers le sud et perd contact avec l'Adventure. Et il finit seul le voyage avec le Resolution. Et en 1773, il va chercher, là, à la fin du mois de janvier, son propre record en touchant le 71e degré sud. Alors là, il tombe sur la banquise qui l'empêche d'aller plus loin. Il remonte rapidement vers le nord. Il découvre l'île de Pâques. Il retourne à Tahiti. Il explore encore les Nouvelles Hébrides. Il découvre, vous savez qu'elles avaient été trouvées en 1606 par Quiros et qu'elles avaient été revisitées par Bougainville. Ah, tiens, on parlera peut-être de Bougainville la prochaine fois. Et il tombe aussi sur la Nouvelle-Calédonie et il rentre une fois de plus en Nouvelle-Zélande. Il navigue jusqu'au Cap Horn, jusqu'à la Nouvelle-Géorgie. Il découvre les îles Sandwich. Il jette un dernier regard sur le cap Bouvet, il arrive en Angleterre le 30 juillet 1775. C'est ainsi que se termine un voyage remarquable par son immunité complète contre le scorbut, je le rappelle, et puis surtout le fait qu'il a su éviter les périls de la banquise et faire la preuve définitive qu'il n'y avait pas de continent austral. Cook avait atteint tous ses objectifs. Il y aura un troisième voyage en 1776 pour résoudre le passage nord-ouest. C'est ainsi que cette dernière expédition sera aussi une expédition importante et ça a résolu tous les problèmes qu'on avait posés auparavant. Et c'est une dernière expédition plus tard faite par George Vancouver qui va permettre de remarquer que Cook a toujours eu raison. Et enfin, je dirais que les changements qu'il va apporter à la map monde, c'est quelque chose qui le place en numéro un. Des exploits d'une valeur exceptionnelle, tant de choses ont été accomplies dans cette brève période qui va de 1768 à 1779 qu'il est difficile d'en mesurer la grandeur. Mais James Cook, eh bien pour moi, il est resté inégalé.